Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Au sommaire ce soir, elle a fondé en 2018 un chœur qu'elle dirige encore aujourd'hui, Laurence Lathion-Aventaine. On parlera de NC Vox en compagnie du président du même chœur, Thierry Granger. Elle a repris depuis peu avec son associé Grégoire May les éditions Henri Labatia, des mains de leur fondateur Michel Roulin. Yannick Chezeau nous en dira un peu plus sur ce métier particulier d'éditeur de partitions de musique. Il nous invite, mois après mois, à scruter l'espace et les phénomènes qui s'y déroulent. Stéphane Davet nous dira ce qu'il faut observer dans le ciel de ce mois de mai. Nous sommes le jeudi 4 mai 2023 et comme chaque semaine, nous sommes ensemble pour une petite heure sur Agone Radio.
Ce magnifique morceau de chœur, Hold On To The Rock, de Piper Choplin, en guise d'introduction pour parler chorale et chœur aujourd'hui, avec Laurence Lathion. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Et Thierry Granger.
Bonsoir. Thierry.
Pour parler du chœur NC Vox, ma première question va pour Laurence. Le chœur NC Vox a été créé à votre initiative, je crois, en 2018. Pourquoi avoir créé un chœur en 2018 ?
Alors, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. C'est vrai que je ne l'ai pas tout de suite concrétisé, parce que voilà, on se pose quand même beaucoup de questions. On dit qu'il y a des chœurs, il y a aussi des chœurs qui sont très bien fournis, d'autres aussi qui ont des problèmes de relève. On se dit, bon, est-ce que si on crée un chœur, est-ce que ça pose problème ou pas? Donc, en fait, j'ai beaucoup observé un petit peu les allées et venues, pourquoi les gens entraient dans des chœurs, pourquoi ils en sortaient, etc. Et puis, un jour, je me suis dit, allez, il faut... plutôt que de regarder les autres réaliser leurs rêves, et si je réalisais le mien, parce que finalement j'étais convaincue que pour l'art choral en général, plus on créerait de chœurs qui seraient différents les uns des autres, finalement plus on aurait de chanteurs et plus l'art choral serait florissant.
Et ça vous permettait aussi de faire ce que vous aviez envie.
Voilà, exactement. Donc c'était aller surtout dans la musique sacrée en général. Donc d'aller dans un style de musique, d'aller aussi un rythme assez soutenu. Donc m'entourer de gens qui avaient envie et qui trouvaient leur plaisir dans le fait d'aller chercher le détail, d'aller chercher une émotion forte à transmettre. Et puis de foncer, de bosser en fait.
C'est marqué sur le site internet la motivation de porter sur les fonds baptismaux. Comment on fait pour expliquer ça, pour trouver, je ne sais pas, 15, 20, 30 musiciens ?
Alors, j'ai d'abord regardé autour de moi les contacts que j'avais, les chanteurs qui avaient chanté mais qui n'étaient plus dans un chœur à ce moment-là. Je leur ai parlé de mon projet et puis, ça a bien pris. Au départ, nous avons commencé à 33 chanteurs. Et puis, en fait, les gens qui savaient que ce projet allait être mis sur pied en ont parlé aussi à leurs contacts. Et puis, c'est vrai que... Oui, aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que ça a répondu à un besoin, parce qu'en fait, je suis entourée de gens qui étaient chanteurs, mais ne chantaient plus, surtout. Et puis, on a aussi, depuis quelques années, pas mal de chanteurs qui sont des nouveaux chanteurs, en fait, qui n'avaient jamais chanté dans un chœur, mais qui entrent là, chez nous, comme premier chœur. Donc, c'est intéressant.
Vous n'êtes pas du tout une inconnue dans le monde de la chorale en Valais, puisque vous avez dirigé votre premier chœur à partir de l'âge de 15 ans, c'est juste?
Oui. Le chœur des jeunes Sème la vie de Trois-Torrents, je l'ai dirigé pendant 12 ans, ouais. Avant de prendre la direction de la chorale de Murat pendant 7 ans. Et puis donc ensuite NC Vox dès 2018.
Vous avez fait un break entre deux ?
Oui. Alors là, j'avais vraiment besoin d'un break. C'est ça, je pense aussi, comme un petit peu pour beaucoup de monde, quand on arrive à un stade où on a beaucoup de choses, j'ai eu besoin de faire du vide autour de moi pour laisser l'envie revenir. Et puis, il y a ce rêve qui est apparu et puis que j'avais vraiment envie de concrétiser. Il y a eu besoin de cette pause pour repartir avec beaucoup d'énergie et de motivation.
Le cœur, c'est la passion. C'est votre passion.
Complètement, oui.
Je vois que vous avez fait pas mal de formations aussi.
Oui, alors c'est vrai qu'après avoir dirigé le Cœur des Jeunes de Trois-Torrents, je me disais, j'ai adoré faire ce que j'ai fait, mais est-ce que je vais oser prendre un cœur d'adulte où il y a des membres qui ont fait des cours de chant, alors que moi je viens du milieu de la fanfare aussi, donc j'avais le solfège, mais je le faisais un peu à l'instinct. Et c'est là que j'ai décidé en 2009, de commencer le conservatoire. J'ai fait la formation de direction chorale, bien sûr le solfège, et puis des cours de chant depuis ce moment-là aussi.
Thierry, vous êtes le président depuis le début, là, ou par la suite ?
Oui, alors j'ai la chance de présider avec toute une équipe au destiné du chœur NC Vox, et puis en fait, oui, depuis le début.
Vous connaissiez avant ?
Alors oui, on se connaît parce qu'on a déjà eu, j'ai eu la chance déjà de chanter, Laurence a parlé tout à l'heure qu'elle dirigeait la chorale de Murat, donc j'y ai, et je chante d'ailleurs toujours à la chorale de Murat, et puis il y a aussi quelques liens de parenté qui nous unissent, alors on se connaît effectivement.
Qu'est-ce que fait un président de chœur ?
Voilà, ben,
dans une chorale d'église, c'est plutôt le curé.
Oui, alors le président d'un chœur ou du chœur NC Vox, je résumerais que mes activités ou mes responsabilités seront pas forcément tellement différentes que celles de tout président ou présidente d'une autre société. En fait, je suis le responsable ou le répondant administratif du chœur. Et puis je m'empresse de dire qu'un président, finalement, c'est juste un membre d'une équipe qui s'appelle un comité. Et nous avons la chance d'avoir un comité de gens motivés, de gens également passionnés dans ce qu'ils font au sein de ce comité. Et puis, notre travail, nos responsabilités, c'est en fait de mettre en place les conditions les plus favorables possibles pour qu'on puisse chacun s'exprimer au travers du chant dans nos activités.
Ah, j'ai pas posé la question au début. NC Vox, ça veut dire quoi ? NC, pourquoi ?
Alors, c'est toute une histoire. Je cherchais un nom, en fait. Je voulais prendre le mot Vox parce que, le latin, j'aime le latin, j'ai étudié le latin. Puis, en fait, on approchait des concerts et puis les choristes me disaient, mais on n'a toujours pas de nom. Et puis, sur les groupes WhatsApp, Nouveau Cœur, au début, c'était Nouveau Cœur, après, c'est devenu NC pour NC Hommes, NC Filles, et puis finalement, c'est devenu NC Vox. Tout simplement.
Vous n'êtes pas rattaché à un lieu en particulier, à part une salle de répétition ?
Non, on est indépendant de communes ou de paroisses.
Vous faites comment pour choisir ? Comment vous faites la sélection des choix de vos concerts, où vous les faites ?
Alors, l'objectif qui nous anime tout au long de la, je commencerai par là, qui nous anime tout au long de la saison, en fait, dans l'apprentissage de toutes nos pièces, c'est vraiment de pouvoir se produire auprès d'un public aussi large que possible, auprès du plus grand nombre. Et l'intention, l'objectif finalement de toute saison, c'est de produire le fruit de notre travail au travers de concerts. On organise en principe sur une saison 7 à 8 concerts. Et puis on essaye dans toute la mesure du possible, comme dit, d'aller exporter un petit peu notre musique, ce qui nous plaît, dans notre région en premier lieu. Mais on essaye aussi un petit peu de s'exporter. Donc on planifie nos concerts en fonction des opportunités qui se présentent dans tout le Valais-Roman,
Plutôt église ou salle ?
Alors le concept et notre musique, la musique que nous proposons, je dirais qu'elle trouve son écrin plus favorable dans des lieux sacrés et en principe dans des églises. Donc très probablement on se produira jamais dans une salle de gymnastique ou une salle polyvalente parce qu'en fait on aura de la peine à pouvoir exprimer tout ce qu'on a envie de faire passer auprès du public. Donc on choisit des régions, des églises et puis encore une fois en fonction des opportunités, des disponibilités des différents lieux. On essaye un petit peu d'aller apporter ce qui nous fait plaisir auprès de notre public.
Oh.
Magnifique pièce au Crux Ave Croix Sacrée d'un compositeur laiton, Richard Dubra. Ce morceau, il est très délicat, très beaucoup de voix. Comment on fait pour mettre tout ça ensemble?
Alors, c'est clair que c'est du travail. Si le chant est compliqué, on peut travailler aussi en petit groupe. Et puis, on fait pas mal de techniques vocales. C'est vrai que sur une répétition de 2 heures, je fais facilement 20-25 minutes de techniques vocales en début de répétition. Pour essayer de faire les progrès, en fait. Et c'est vraiment la partie principale de la répétition. C'est ça, c'est ce début. Et puis après, c'est aller très vite aussi dans le par cœur, qui est un outil de travail assez intéressant parce qu'on peut se libérer du solfège pour avoir aussi une écoute qui est meilleure et puis pouvoir transmettre justement l'émotion propre au chant. Puis après, on essaye de mélanger les registres aussi pour que les chanteurs ne soient pas toujours assis à côté d'un collègue qui chante la même chose que lui. Et puis ça aide aussi à prendre de l'assurance et puis finalement avoir un résultat qui est très beau. En tout cas, les chanteurs sont motivés à travailler. C'est ça qui est beau pour moi, c'est des chanteurs vraiment motivés, puis du coup on arrive à partager des beaux moments de passion.
Je précise qu'on a passé quand même un extrait vraiment un vrai de NC Vox, pas piqué en quelque part sur Spotify ou je ne sais pas, donc c'est vraiment votre cœur, et là vraiment la justesse est vraiment impressionnante. C'est musique sacrée ou religieuse?
Alors au Crux Ave, typiquement c'est un chant religieux.
C'est quoi la différence entre musique sacrée et musique religieuse?
Alors, je ne suis pas musicologue, mais en gros, je dirais que la musique religieuse, elle aide à la prière, et puis la musique sacrée, elle aide à la spiritualité, à la beauté, comme dit avant. Donc, c'est un peu plus large. Il y a des gens pour qui, ils ont un attachement à la religion, donc c'est ça qui est important pour eux. D'autres, ils seront attachés à l'univers, d'autres, ce sera la nature, peu importe. Puis chacun, avec sa sensibilité, trouve de quoi se faire plaisir, en fait.
Comment ça se passe, le choix des morceaux?
Alors, le choix des morceaux, c'est essentiellement Laurence qui porte cette charge-là, parce que c'est elle aussi qui a cette compétence-là, qui a cette... on parle beaucoup de passion, mais ça, effectivement, c'est le cas, qui a cette passion-là. Et puis, chaque membre est amené, en fonction des découvertes ou des écoutes qu'il fait ici ou là, à proposer, à partager des pièces, et puis finalement... ça convient ou ça convient pas, et Laurence nous les propose, nous les fait travailler pour qu'on puisse les présenter.
Vous n'avez pas de commission musicale? Ou tout le chœur est la commission musicale?
Alors je dirais que plutôt cette variante-là, on n'a pas de commission musicale en tant que telle, mais en fait le chœur NC Vox, c'est de lui-même une commission musicale.
Vous êtes combien de membres actuellement?
Actuellement nous sommes 30 membres.
L'irgiste articulé comment?
Donc soprani, alti, ténor et basse. Et puis donc nous avons des chants à 4 voix ou alors à 6, 8 voix. Il y a aussi pas mal de chants qui ont des dédoublements de voix.
Vous recrutez des gens?
Alors oui, s'il y a des gens qui sont intéressés à chanter, motivés, c'est clair qu'ils me contactent. Et puis ensuite moi je les vois pour discuter un petit peu, leur expliquer notre fonctionnement, qui n'est pas forcément un fonctionnement peut-être habituel, pour qu'on soit sûr que la personne soit motivée. On chante un petit peu ensemble aussi, histoire que... la voix soit juste, mais il n'y a aucun critère de solfège. On demande pas que les gens aient fait de la technique vocale ou aient appris le solfège. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui chantent à l'oreille. C'est ça que je trouve merveilleux. Et moi, j'avais vraiment envie de donner une place à ces gens-là, parce que tous les membres du chœur sont musiciens, ont cette sensibilité-là. Et puis, ils savent, par contre, qu'on bosse à un rythme assez soutenu. Donc, ils ne sont pas lecteurs, en fait, moi, je fais des audios. Comme ça, après, ils peuvent travailler à la maison.
Il y a des chants dans différentes langues, hein, aussi parfois compliquées, de l'hébreu, du laiton, oui. Je crois. Hein. Mm-hmm. Comment on fait?
Je vais laisser le président.
Peut-être Thierry. Ouais,
oui. Et comment on fait?
C'est du par cœur.
On s'accroche. Alors oui, alors déjà, c'est une autre composante. En fait, dans toute la mesure du possible, c'est-à-dire pratiquement pour toutes nos pièces, l'objectif, c'est de pouvoir chanter par cœur, de pouvoir se libérer finalement de la contrainte des partitions, parce que c'est un... tout autre message qu'on est capable de pouvoir faire passer lorsqu'on a, on n'a pas la partition, on n'a pas cette, à quelque part ce, ce carcan de la partition. Et puis pour les chants qui ne sont pas, pas en français, et il faut le dire, ils sont quand même relativement nombreux, eh bien, on apprend tout simplement. On prend aussi du temps pour traduire, pour malgré tout que
comprendre.
Que chacun comprenne malgré tout ce qu'il est en train de chanter. C'est aussi important sur le fond parce qu'on n'exprime pas les mêmes choses de la même manière. Donc tout ça fait que finalement on essaye de rendre le chant dans même en langue étrangère le plus compréhensible possible pour des gens qui parleraient cette langue là.
Ce week-end vous serez à la fête fédérale de chant. Hein. Fête cantonale de chant à Martigny.
Oui, c'est ça. Oui. Nous allons nous produire donc samedi en Aubade. Et nous participons sinon aussi à un atelier, l'atelier Rotter, le dimanche matin. Et puis nous nous présenterons pour le premier concours lors de cette fête de chant, en fait, le dimanche après-midi.
Concours.
Oui, alors c'est la première année que la Fédération met sur pied un concours de chant. L'idée, ben, de nouveau, c'est d'agrandir un petit peu les possibilités, bon, parce que la preuve, c'est que ce concours aura lieu alors que c'est la première année. Donc ça veut dire qu'il y a des chœurs qui ont envie finalement de prendre cette direction. On a le choix entre se présenter devant un jury, avoir un commentaire oral, ou alors faire un concours et puis avoir une grille de points. Donc en fait, la différence entre les deux, c'est finalement que le concours est peut-être un petit peu plus précis au niveau du retour. Et puis il a été pensé tout à fait constructif, puisqu'uniquement les trois premiers sont annoncés, les trois premiers chœurs sont annoncés. Donc en fait, voilà, c'est vraiment dans un but voilà, constructif, quoi. Il n'y a pas de mauvaise compétition là-dedans, mais là, une compétition pour nous-mêmes, chaque cœur qui se dit, ben voilà, allons-y, c'est un challenge, bossons, et puis finalement, on n'en tire que des progrès pour nous, quoi.
Vous avez aussi des sorties ou des prestations au mois de juin, 4.
Oui, alors on a notre prochaine...
Le 2 juin, à l'église de Valdilier, 20h.
Exactement, donc je parlais tout à l'heure de nos séries de concerts, donc en principe on planifie une série de concerts plutôt sur l'automne, l'hiver et puis au printemps, et on est à l'aube de cette prochaine série de concerts, vous l'avez dit, le 2 juin à l'église de Valdilier. Je profite, puisque j'ai le micro, de faire un petit peu de publicité.
C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs.
Très bien, merci. Alors je poursuis, ceux qui sont intéressés à venir nous écouter pourront le faire également le dimanche 4 juin à l'église de Massonger à 10h30. Donc en fin de matinée, toujours ce même dimanche 4 juin, nous produirons à l'église de Chara 18h, et enfin le mercredi 7 juin à l'église de Viona à 20h. Donc ce qui clôturera notre saison musicale de cette année par cette série de 4 concerts.
Alors merci beaucoup, le rendez-vous est pris, merci d'être venu sur la radio, Laurence et Thierry. Plaisir, et nous allons terminer avec Shalom Lak Myriam. Je vous salue Marie en hébreu. On parlait avant de langue, ça peut être intéressant.
Oh. vendredi, Victor Glacet, Thierry Vrobatel, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
Derulo.
I was about to stay at home tonight. Yeah, yeah. But my friend wouldn't take no. Grab my money, keys and phone, and I was out. So girl, so girl. Yeah. I saw you standing there across the room. Yeah, yeah. I watched the whole room freeze when you looked back at me through the crowd. So girl, so girl.
Ce moment partagé avec le chœur NC Vox, nous allons revenir un peu en arrière et découvrir le monde feutré des partitions utilisées par les chœurs ou par les fanfares ou d'autres ensembles avec Yannick Chezeau. Bonsoir Yannick.
Bonsoir Victor.
Vous êtes donc la nouvelle propriétaire des éditions La Bâtière Saint-Maurice.
Oui, exactement. Depuis octobre 2022, nous sommes de nouveau propriétaires des éditions La Bâtière.
Comment vous avez atterri? Vous étiez dans le marketing, dans le monde de l'édition, du print et là, les partitions.
Alors, c'est un peu la crise du Covid qui m'a amené à venir rendre visite à Michel Roulin. Et depuis, je suis restée un jour par semaine pour lui donner un petit coup de main.
C'est un monde inconnu pour vous, hein? Avant, à part la fanfare, bien sûr.
Alors, l'art choral, oui, était assez inconnu pour moi. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai encore beaucoup à apprendre.
Et l'édition de partitions?
Alors, c'était vraiment inconnu pour moi, oui.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, dans ce nouveau métier?
C'est que j'utilise mes connaissances dans l'art graphique et aussi que j'apprends des nouvelles choses au niveau de l'édition, justement. Toutes ces choses sont nouvelles pour moi et j'ai du plaisir à rencontrer des nouveaux challenges.
Quel est le métier de base donc, d'un éditeur de partitions? Bon, éditer des partitions, vendre des partitions, comment ça se passe?
Alors, on reçoit pas mal de demandes de gens qui écrivent leurs partitions en manuscrit. Et ils nous envoient des mails avec une vingtaine de partitions. En
disant, comme pour l'édition d'un roman, donc
exactement.
La même chose.
On a un petit comité de lecture. Ces gens-là contrôlent la musique et on décide si on veut l'éditer ou pas l'éditer. On peut aussi faire des modifications. Si vraiment on voit que la musique est bien, mais qu'elle doit subir quelques modifications, Et après, on l'édite. On la met au on la grave, justement. Ça passe chez notre graveur. Et puis après, ça part en correction. Et après, on l'utilise dans notre catalogue de nouveautés.
Le gravage, c'est toujours avec les lettres en plomb, enfin les notes en plomb, c'est comment ?
Non.
Ce terme est un peu ancestral de l'impression, hein, oui. D'imprimerie.
Alors, ça a bien changé depuis bien des années. Si vous passez une fois aux éditions Labatia à Saint-Maurice, vous allez pouvoir voir une ancienne machine à écrire. Et à l'époque, ils écrivaient la musique sur ces machines à écrire, justement. Et maintenant, ça se fait tout par ordinateur. Ça va donc un petit peu plus vite.
Ça évite aussi les fautes, parce que c'est aussi possible aussi. D'écouter le morceau, le programme
corrige. Oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Ensuite, donc, après, vous avez donc toutes ces partitions, donc enfin la première partition. Après, vous faites du print ou de l'impression normale, tout à fait normale.
Oui, on fait du print numérique. À l'époque, Michel Roulin le faisait beaucoup avec des presses offset. Et ça se fait plus, ça se fait beaucoup en impression numérique.
Donc vous avez vos propres partitions ?
Alors on est propriétaire de nos partitions. Les gens n'ont pas le droit de faire de photocopies.
Et si moi maintenant je veux par exemple une partition de Mozart, je peux venir chez vous aussi ?
Nous avons du Mozart qui a été retranscrit par des gens qui font partie de notre fonds musical.
Vous avez des fonds musicaux, hein, on le dit.
Exactement.
Je vois Musica, alors je ne suis pas très bon en latin, hein, mais Musica Valensis, Coralia Friburgensis, l'abbé...
L'abbé Joseph Beauvais.
Bernard Chenot et pas Chezot. Hein.
Ouais, exactement.
Maurice et Pierre
Fetiche.
Et puis N.
N.
C'est des fonds musicaux ?
C'est des fonds musicaux que Michel Roulin a racheté durant ses 50 années des éditions Labatia. Donc exactement, ça se passe comme ça. On rachète ces fonds musicaux, souvent des manuscrits. On sort les pépites et on les grave et on les vend.
Il y a un aspect donc historique ?
Oui, bien sûr.
De collection
oui.
Aussi ?
Ah oui, oui, oui.
Est-ce que ces partitions, un jour, elles termineront dans un fonds ? Est-ce qu'elles sont, autre question, protégées ?
Alors, nous avons un dépôt sous le C et quand mon associé voit des manuscrits, il dit qu'il devrait finir dans un musée, ces manuscrits. On a des pépites sous le C, donc.
Quelle est votre journée type ? Écrire des partitions, écouter des morceaux, c'est comment ?
Alors,
c'est rêverie ou c'est très strict ?
Alors, c'est gérer les commandes. La plus grande partie de mon travail sera de gérer les commandes. Et je pense que c'est le 85% de mon temps où je gère les commandes.
Et on est sur un marché de niche, il y a de la concurrence, est-ce qu'il y a des grands éditeurs
Nous sommes peut-être le plus grand éditeur de Suisse romande. Nous avons environ 20 000 titres, donc question volume, nous sommes bientôt la plus grande maison d'édition. Par contre, nous sommes en train de grandir. Nous sommes en train de racheter la maison Freddy Henry à Villerand. Avec ce rachat, nous devenons très grands et nous avons encore beaucoup à faire pour avoir une équipe derrière nous qui travaillons tous ensemble.
Vous avez dit avant qu'il y avait 20 000 titres, à peu près. C'est des titres qui sont... Alors, c'est quoi la majorité des titres ? Fanfare, chorale ?
Alors, chorale...
Sonate, sonatine,
ouais. Enfin... Nous avons beaucoup de musique pour les chœurs. Nous avons aussi de la musique pour les orchestres et nous avons de la musique aussi pour les instruments, style hautbois et des instruments clarinettes et tout ça.
Vous avez besoin de faire de la publicité pour que les gens viennent à vous
ou... Oui, nous allons devoir refaire de la publicité. Cette maison d'édition fonctionnait bien, mais on a beaucoup à faire pour nous faire sortir du lot.
C'est à peu près comme tous les produits, tout passe par Internet maintenant, donc il faut être présent.
Oui. On est en train de mettre en place un site internet très intéressant et il sera vraiment complet avec ces deux maisons d'édition réunies.
On peut visiter ?
Pas ces jours, nous sommes en plein travaux car nous avons eu un dégât d'eau. Mais à partir du 1er août, on peut venir visiter, on peut venir me voir quand vous voulez. Je vous explique comment ça se passe, les éditions Labatia.
Donc c'est un peu pour les gens qui aiment aussi un peu fouiner.
Oui,
qui...
oui.
Alors on pourra venir vous visiter dès le 1er août, hein. Pas le premier, parce que c'est férié, mais à partir du mois d'août. Mais où ? À Saint-Maurice ?
Alors, dans la rue pavée, à la Grand Rue 46, à Saint-Maurice.
Alors, le rendez-vous est pris. Alors, si vous voulez visiter à partir du mois d'août, les éditions, vous pouvez venir sans problème. Si vous avez aussi des morceaux que vous avez composés dans votre tiroir, vous voulez les faire éditer, il n'y a pas de problème, vous êtes preneuse.
Exactement, venez nous voir.
Merci beaucoup, Yannick, d'être passé sur Agone Radio, et à une prochaine fois.
Merci beaucoup, bonne soirée.
la fanfare municipale lagonoise vient à votre rencontre à l'occasion de ses concerts des quartiers qui se dérouleront à 19h30 les mercredis 3 mai à la Borette et 10 mai à la chapelle d'Épinasset. Report possible 17 mai en cas de mauvais temps. Apéritif offert par la Société de développement de Saint-Maurice.
Icône Radio vous donne rendez-vous le samedi 3 juin en direct de la fête de la Maison des Arts. Faites plus ample connaissance avec les actrices et acteurs culturels agonois qui se succéderont sur scène toute la journée. Interviews, animations, musique. C'est le samedi 3 juin en direct sur Icône Radio et en live sur la place Saint-Maurice-Val-de-Marne avec le soutien de la Société de développement de Saint-Maurice.
Il était son homme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût! Ce mot dans sa poche, elle l'a compris d'un coup. Mamma mia, que j'étais bête, lui pas mal. Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche quand tout à coup. Mamma mia, que j'étais. Est-ce qu'après tout c'était pas si mal? J'empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison, pauvre de toi. Mamma mia, que j'étais.
Évoquer le ciel de mai, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Davet. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Victor.
Donc comme d'habitude, les horaires du soleil et de la lune. Tout d'abord le soleil.
Alors le soleil se couche à peu près 8h30 le soir maintenant. Donc au 15 du mois de mai. Donc voilà, donc de nouveau il faut observer le ciel, disons, à partir de 9h30, 10h moins quart, pour commencer à voir les étoiles de manière un petit peu plus simple. C'est clair qu'au couchant, c'est un peu plus difficile, mais on va d'abord voir les planètes, puis ensuite les étoiles.
Ça devient de plus en plus difficile d'observer le ciel, c'est ça?
Oui, parce que, c'est clair, la nuit se fait de plus en plus tard, et puis le soleil se lève aussi de plus en plus tôt. Donc c'est clair que dans les mois qui sont proches du mois de juin, on va avoir une nuit qui est très courte finalement.
Avec une lumière résiduelle quand même, jusqu'à 22h.
Voilà, exactement. Pénombre. Exactement, et puis pour faire vraiment de l'astronomie, on parle de crépuscule astronomique, d'accord, lorsque le soleil a une certaine certaine distance en dessous de l'horizon. Et puis si on regarde sur une nuit complète en plein été, ce moment-là où il fait une nuit suffisante pour observer les étoiles vraiment, puis faire de la photo par exemple, c'est très court, c'est quelques heures seulement.
La Lune, de nouveau pleine Lune en début de mois.
Et oui, comme c'est tous ces derniers mois, donc on a ici la pleine Lune le 5 et puis la nouvelle Lune qui se passera autour du 19 du mois.
Donc c'est à cette période-là que...
Exactement, c'est autour du 19, là où on a une Lune qui ne va pas nous perturber. Plutôt, si on a un fin croissant au début de nuit, ça ne pose pas trop de problèmes, c'est même assez joli d'ailleurs, d'observer ce croissant de Lune au début, les 2, 3, 4 jours suivant la nouvelle lune. Puis après, cette petite lune va se coucher très rapidement, puis on peut observer le ciel. Donc c'est très agréable.
Au niveau des planètes ?
Alors au niveau des planètes, alors toujours Mars, bien sûr, qui est visible en première partie de nuit. Vénus, visible également en première partie de nuit, donc sous forme d'un croissant. Et puis on a Saturne qui... On l'avait déjà évoqué pour le mois d'avril, qui revient le matin à l'aube aussi et qu'on pourra observer ces prochains temps. Et puis on parle aussi peut-être une fois aussi de ces planètes naines avec Cérès, qui est le plus gros astéroïde de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter, qui a environ 1000 km de diamètre et que l'on peut aussi observer comme une petite étoile dans le ciel à peu près toute la nuit.
Donc je prends Vénus tout d'abord. Croissant, possible de le voir à l'œil nu, le croissant où on voit quand même toujours cette
Alors sphère. Non, on voit toujours un truc très, très brillant, mais par contre pour voir le croissant, il faut un petit instrument.
Paire de jumelles, stabilisée, même pas.
Paire de jumelles stabilisée, peut-être qu'on arrive à deviner que c'est pas un point en tout cas, c'est pas un disque.
Et puis donc Cérès, donc visible, ça fait 1000 km de diamètre, hein, c'est 12 fois plus petit que la Terre, donc si on prend la Terre comme si la Terre était un ballon de basket, j'imagine que Cérès est grand comme une bille, hein, quelque chose comme ça. Hein.
Ouais, tout à fait, à peu près, ouais.
Comment on peut voir cet objet ?
Alors, là, il faut évidemment se munir d'une petite carte. Ça, c'est compliqué de repérer l'objet, vu qu'il y a beaucoup d'étoiles dans son environnement qui sont à peu près de la même intensité lumineuse. Donc, il faut repérer sur une carte. On en trouve assez facilement sur Internet. Et puis, ensuite, comparer dans le ciel les étoiles et puis se dire, ben tiens, le petit point qui est là, en fait, c'est pas une étoile, c'est cette planète Cérès.
Cérès a été découverte en 1801 par un certain Giuseppe Piazzi. Le mouvement des planètes est un mouvement particulier. Pourquoi à l'époque, à l'Antiquité, on n'a pas découvert cet objet? Il a fallu attendre le 19e siècle. Question piège peut-être, mais...
Non, mais parce que simplement les planètes qu'on a découvertes dans l'Antiquité, c'était des planètes dont les diamètres étaient tels qu'ils étaient quand même beaucoup plus brillants que Cérès. Et donc, Cérès, il faut quand même avoir une certaine aide au niveau d'instruments d'optique pour vraiment s'assurer que c'est quelque chose qui existe bel et bien dans le ciel.
Vraiment aller chercher le point.
Voilà, tout à fait. Puis je ne sais pas, peut-être que certains anciens de l'Antiquité avaient peut-être remarqué qu'il y avait ce petit objet là qui se déplaçait peut-être. C'est possible, je dirais, ça n'a pas été transmis jusque chez nous, mais c'est censé être des dieux. Donc a priori, s'il y a un dieu qui n'est pas très visible, ce n'est pas très intéressant pour eux.
Pour nos auditeurs, pour que nos auditeurs comprennent bien, en fait, les étoiles sont toujours fixes, hein, nuit après nuit, et puis les planètes, donc ces mouvements qui sont en rotation autour du Soleil, bougent nuit après nuit. C'est comme ça qu'on peut détecter si c'est une planète.
Exactement. D'ailleurs, le mot planété, ça signifie qui bouge, en fait, qui se déplace. Donc, c'est vraiment ce qui fait la grande différence entre effectivement ces objets, les planètes et puis les étoiles.
Planète naine, c'est un mot quand même qui est assez récent. À l'époque, on appelait ça astéroïde dans la ceinture d'astéroïdes.
Exactement. Et puis d'ailleurs, Pluton est également devenu une planète naine quand on a redéfini la notion de planète. Ce qui est quelque chose qui n'était pas forcément très bien défini. Donc il y a trois choses qu'il faut connaître. Déjà, il faut savoir que c'est un objet qui tourne autour du Soleil. premièrement. Deuxièmement, il faut que ça soit un objet qui soit suffisamment massif pour qu'il ait une forme plus ou moins sphérique quand même.
Donc c'est le cas de Cérès et Pluton.
Tout à fait. Et puis il y a un troisième critère en fait qui du coup va éjecter Pluton et Cérès de la liste des planètes, c'est que ça doit être un objet qui est suffisamment massif pour avoir finalement attiré ou repoussé tous les petits objets qui sont sur son orbite. Et comme Cérès est dans la ceinture d'astéroïdes, donc c'est un objet qui n'est pas considéré comme une planète parce qu'il y a dans son environnement encore plein de petits débris, de petites choses comme ça qui circulent avec lui. La même chose pour Pluton qui en fait fait partie des objets dits transneptuniens. Il y en a pas mal aussi dans son environnement. Et donc on les a finalement éliminés de la liste des planètes à cause de ça.
Pas réussi à faire le ménage. Hein, comme
exactement. Pas réussi à faire le ménage sur son orbite.
Cérès a une orbite autour du Soleil plus ou moins circulaire, ce qui n'est pas le cas de Pluton qui n'est même pas encore en plus dans le bon plan, qui est un petit peu décalé.
Voilà, exactement.
Et puis Pluton aussi intéressant, c'est cette mission en 2016, New Horizons.
Voilà, cette mission qui a un peu défrayé la chronique. Hein. C'est la première fois qu'on envoyait un objet aussi loin pour aller voyager dans le système de Pluton. Il y a eu quand même 9 ans de voyage, c'est quand même pas anodin. Donc on a dû construire un appareil qui était fiable, vraiment très très fiable. Il fallait pas qu'en cours de route, il y ait un instrument critique qui lâche. On a même endormi un peu cette sonde pendant plusieurs années durant son voyage pour être sûr que tout allait tenir correctement. Et puis on a eu une moisson scientifique assez intéressante en survolant Pluton, justement en 2016. On ne s'attendait pas à voir des choses comme ça en fait.
Là, je m'adresse à l'astrophysicien. Quand on envoie une sonde sur Pluton, ils font comment ? Moi, si je vais à Martigny, je prends une direction. Ça paraît complètement fou. Est-ce qu'il y a des simulations, il y a des calculs par rapport aux orbites pour donner le bon rendez-vous ? C'est comme ça.
Voilà, en fait, c'est assez compliqué. Donc, souvent, on utilise l'assistance gravitationnelle des autres planètes. On a des sondes qui peuvent partir, qui vont jusqu'à Mars, qui reviennent et qui repartent, qui reviennent vers la Terre et qui repartent. Et à chaque fois, elles gagnent en vitesse, puis d'un coup, bam, elle peut partir à la vitesse qu'on souhaite pour gagner du temps finalement. Donc, notamment, New Horizons est passé à proximité de Jupiter, notamment, elle a survolé Jupiter, et rien qu'avec cette connexion avec Jupiter, elle a gagné 4 km par seconde en vitesse grâce à cette assistance gravitationnelle. Donc, c'est tout à fait non négligeable, et on l'utilise abondamment pour toutes ces sondes qui vont très loin.
Comment on fait pour les diriger à des centaines de millions de kilomètres, alors qu'on sait qu'en plus, il y a du délai, parce que pour aller jusqu'à Pluton, je sais plus, c'est 16 heures ou quelque chose comme ça.
Oui, tout à fait. Mais tout est prévu d'avance, tout est calculé d'avance. Et puis, les petites imperfections du calcul ou les petites imperfections dues à fait qu'on ne peut pas tout calculer avec autant de précision qu'on voudrait, ben, y a un petit peu de carburant quand même dans la sonde qui permet de faire des micro-corrections de trajectoire. Donc...
Puis elle est aussi capable d'elle-même de se centrer par rapport aux étoiles et des repères qu'elle a. Hein.
Oui, effectivement, ouais, tout à fait. Bon, elle a des instruments scientifiques aussi qui doivent fonctionner avec de l'énergie. Étant donné que cette mission est très particulière, vu qu'elle va très très loin, et, les panneaux solaires ne suffisaient pas, donc on a aussi un isotope à l'intérieur qui permet d'avoir de l'énergie, entre guillemets, nucléaire, qui va permettre de faire fonctionner tout ça.
Au niveau des constellations, le Bouvier, Actarus...
Oui, alors le Bouvier est bien évidemment une constellation assez connue avec Arcturus, justement l'étoile principale.
C'est avoir quelque chose avec le dessin animé ?
Absolument, donc les noms des personnages de Goldorak, pour ceux qui s'en souviennent, sont tous des noms d'étoiles en fait. Hein. Peut-être légèrement un petit peu déformés comme Arcturus qui est devenu Actarus, mais sinon Mizar, Alcor, Procyon, si vous suivez l'émission depuis quelques mois, on a déjà croisé quelques-uns de ces noms.
M3, amas ouvert.
Oui, alors dans cette constellation, on a M3 qui est un amas ouvert assez intéressant à observer aux jumelles, qui est très joli.
Pour poignard d'étoiles, un amas ouvert, c'est juste.
Un amas ouvert d'étoiles, ça veut dire qu'on a quelques centaines d'étoiles qui sont là et qui sont nées en même temps, on en avait déjà causé, et qui vont gentiment se séparer dû à la rotation de l'objet de ces objets autour du centre galactique.
La Vierge aussi.
La Vierge aussi, constellation du Zodiac, avec Spica. L'épi. Et puis, dire quand même quelque chose à propos de cette constellation, il y a dans la Vierge un amas de galaxies. Et en fait, le centre de notre amas local se trouve dans cette direction-là. Également, le centre d'un amas de galaxies beaucoup plus grand. Donc, c'est en fait un super amas de galaxies qu'on peut observer en direction de la constellation de la Vierge. Alors, c'est pas des galaxies très faciles à observer. Certaines sont faciles, d'autres moins. Mais disons que là, on a potentiellement la capacité d'en voir beaucoup.
Notre galaxie appartient au super amas de la Vierge.
Exactement. Et notre galaxie appartient au groupe local et ensuite au super amas de la Vierge.
Voilà, on est très, 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 très loin. Les phénomènes astronomiques intéressants?
Alors, le 5, on a une éclipse partielle de Lune, mais c'est un phénomène là qui est très, très difficile à voir depuis Saint-Maurice. On préférerait être plutôt au nord de l'Afrique pour vraiment en profiter beaucoup plus. Mais peut-être qu'en théorie, on devrait être capable de voir une légère diminution de luminosité de la surface. Mais bon, c'était plutôt anecdotique que je le cite ici de manière un peu anecdotique.
Ça veut dire qu'au nord de l'Afrique, on verra donc c'est une éclipse complète?
Non, pas du tout. C'est aussi une éclipse partielle, mais enfin voilà, les éclipses partielles de Lune sont pas des phénomènes impressionnants puisque on voit une très faible en fait diminution de luminosité. Il faut vraiment une éclipse totale de Lune pour vraiment se dire ah bah tiens la Lune elle a beaucoup diminué en intensité.
De nouveau des météores le 11 à chaque mois. Je pensais qu'il y avait qu'au mois d'août.
Ah bah voilà, donc on en a chaque mois, même il peut y en avoir même plusieurs chaque mois en fait, de ces essaims de d'astéroïdes. Ce sont des choses qui sont fréquentes. Et puis ici on a l'essaim des états lyrides. On estime qu'il y en aura entre 5 et 10 par heure, donc c'est pas non plus quelque chose qui est tel que c'est pas l'essaim de météorites le plus impressionnant de la liste, disons.
Faites un vœu, regardez le ciel le 11. Le 16, un alignement Mars-Castor-Pollux.
Voilà, donc les deux étoiles de la constellation des Gémeaux dont on avait parlé le mois passé, avec un bel alignement avec Mars, effectivement. Donc ça vaut toujours la peine de voir ces alignements aux alentours de 23h. Vous pouvez voir ça à l'ouest.
Pollux qui est une immense géante rouge. Hein.
Oui, tout à fait, ouais.
Le 23 aussi, rapprochement Lune-Vénus.
Voilà, dernier événement intéressant, donc un rapprochement, une conjonction comme on les appelle, entre la Lune et Vénus, à ne pas louper aux alentours de 21h.
Donc si vous n'avez jamais repéré Vénus, c'est le moment de regarder donc le 23, 22h, 21h, 22h en direction de la Lune. Et puis
exactement.
Il y aura un immense point très lumineux à côté, c'est Vénus.
Exactement, c'est ça.
Merci beaucoup Stéphane d'être venu.
Mais avec grand plaisir.
Et au mois prochain.
À la prochaine fois.
Voilà, ainsi se termine ce jeudredi du 4 mai 2023. Un grand merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités du jour, Laurence Lathion-Avantet, Thierry Granger, Yannick Chezeau et Stéphane Davet. Toutes et tous étaient au micro de Victor Glacet. Notre ami Fabien Lafarge étant toujours engagé au service de la patrie, dans l'exercice militaire de grande envergure Lux 23 d'ailleurs, qui bat son plein en Suisse romande. Et ça doit être du sérieux car il n'a rien posté sur Instagram depuis lundi, c'est dire le niveau de confidentialité de l'opération. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau jeudredi où nous parlerons de la Fédération des musiques du Bas-Valais et de son festival qui se déroulera du 26 au 28 mai à Champéry. Nous serons en compagnie d'un membre du comité de la fédération et de deux représentants du comité d'organisation de la fête. Et nous recevrons Michael Dave, commandant du corps des sapeurs-pompiers des fortifications, corps intercantonal et intercommunal, créé voilà 10 ans déjà, et Mathieu Ravi, en charge de l'organisation de la journée porte ouverte de leur caserne qui se déroulera le samedi 13 mai prochain. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, écoutez-nous sur Internet, sur le DAB+, vos réactions par WhatsApp au 079 150 1890. Bonne suite de jeudi soir à toutes et à tous et à la semaine prochaine.